propose d'ouvrir le livre saint pour lire ensemble juste quelques versets dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, à partir du verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons ensemble pendant quelques minutes méditer sur ce court passage de l'Écriture et nous rallier à l'exhortation qui nous est faite par l'apôtre Pierre. Quand on lit les évangiles, et que l'on prête attention à ce qui est mentionné dans les évangiles, on s'aperçoit que Pierre n'est pas effectivement un homme sans inquiétude. Et il a manifesté à plusieurs reprises une sorte de peur, de crainte, d'inquiétude, même dans des circonstances où pourtant il a eu l'occasion de voir la gloire de Dieu se manifester. Rappelez-vous ensemble de ce qui s'est passé selon ce que nous décrit l'évangéliste Matthieu au chapitre 14, quand il s'est retrouvé avec quelques disciples dans une barque, une grande tempête s'est soulevée, Jésus n'était pas là, mais la Bible dit que le Maître est venu à leur rencontre en marchant sur les eaux. Et pendant un temps, il y a eu beaucoup de peur dans le cœur de ses disciples qui se disaient les uns aux autres, mais c'est un fantôme. Jusqu'à ce moment précis où Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Jésus a entendu Pierre à ce moment-là lui dire, eh bien, si c'est toi, ordonne que, comme toi, je marche sur les eaux. Et Jésus lui a dit, viens. Et Jésus a permis à cet homme de faire une expérience vraiment unique, extraordinaire. Il a marché sur les flots pendant un temps, mais la Bible nous dit que, écoutant le vent, regardant les vagues et l'agitation de la mer, il eut peur. Et à ce moment-là, il a crié et il a dit, « Seigneur, sauve-moi !» Pourtant, Jésus était à côté de lui et Jésus est venu à son secours. Voyez, il a été aussi victime de la crainte, de l'inquiétude, victime de la peur. Dans une autre circonstance, eh bien, il s'est opposé au plan du Seigneur, au dessein éternel. C'est au moment où Jésus a parlé de sa mort future et il a simplement annoncé « Il faut que j'aille jusqu'à Jérusalem et là je vais souffrir de la part des anciens, de la part des sacrificateurs, je vais mourir. » Mais c'était dans le plan de Dieu, le plan rédempteur de l'Éternel. Mais Pierre a été à ce moment-là saisi d'une sorte de crainte, et il a utilisé une audace incroyable. L'évangéliste Matthieu nous dit qu'il s'est mis à reprendre le Seigneur et lui dire « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et vous savez comme moi que cela lui a valu aussi d'entendre le Maître lui dire « Retire-moi, retire-toi de moi, Satan, car tes pensées ne sont que des pensées humaines. » Et Pierre a été humilié, mais il avait manifesté une certaine crainte, une certaine inquiétude. Puis, vous vous souvenez aussi très probablement quand Jésus est entré dans le jardin de Gethsémané et qu'une cohorte s'est avancée contre le Seigneur. Pierre a été saisi de peur, mais il a manifesté quand même, malgré tout, une forme de courage. Mais cela était dû aussi à l'inquiétude qui était dans le fond de son cœur, parce qu'il voyait cette armée s'approcher et il se disait, mais que va-t-il arriver à mon maître? Mais vous savez, la crainte, l'inquiétude n'est jamais la preuve d'une grande intelligence spirituelle. Et là, il n'a pas manifesté l'intelligence spirituelle. Puisqu'il était averti de la part du Seigneur, il savait que cela devait arriver. Mais il a tiré son épée et, comme vous le savez aussi bien que moi, il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. C'est vrai que l'inquiétude a été souvent le partage de Pierre. Mais il a appris auprès du Seigneur à vaincre cela. Et il est devenu fort dans la foi, ce qui explique la raison pour laquelle, ici, au travers de sa lettre, eh bien, il donne une exhortation à laquelle nous voulons prêter attention. Et dans cette exhortation, il y a deux points essentiels. Le premier point, c'est « Dans vos rapports mutuels, dit-il, revêtez-vous d'humilité ». C'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Et le deuxième point, qui est aussi très important, et qui est la conséquence de se revêtir d'humilité, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mes frères et sœurs, je ne sais pas dans quel état d'esprit, dans quel état de cœur vous êtes venus ce soir. Mais il se peut que certains d'entre vous, et peut-être même assez nombreux, sont venus avec des craintes, avec de l'inquiétude, avec toutes sortes de soucis. C'est vrai que nous vivons une étape particulière dans l'histoire de l'humanité. Et il y a bien des raisons d'être dans la crainte, d'avoir peur, d'avoir des soucis. Il y a bien des choses qui se passent, non seulement au sein de la société, mais parfois même au sein de nos propres familles, et des fois même au sein de la famille de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. Et toutes ces choses-là peuvent produire du souci, de l'inquiétude, de la crainte. Seulement, la parole de Dieu est là pour nous aider. Quand voyez-vous, le seul moyen d'être déchargé de toute inquiétude et de tout souci, c'est aussi d'accepter d'être fondé sur des attitudes fondamentales de la vie spirituelle. Et c'est l'une d'entre elles qui va nous intéresser particulièrement ce soir. Le fait d'être revêtu d'humilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Essayons de développer ce sujet. Dieu a créé un vêtement dont la taille va à tout le monde. Et ce vêtement-là, c'est le vêtement de l'humilité. Laissez-moi vous dire, peut-être en descendant d'un ton et en vous parlant de choses toutes simples, je n'apprécie pas que même un membre de ma famille puisse m'offrir un vêtement, quel qu'il soit. Vous savez pourquoi? Parce que vous l'avez constaté, j'ai une morphologie à, je dirais, des dimensions qui sont très particulières. Et je peux recevoir un habit ou qui sera trop large, ou qui sera trop resserré, ou qui sera trop long, ou il sera trop court, ou peut-être ayant une couleur que je n'aime pas. Alors j'ai une règle dans ma vie, même au niveau de mon foyer. Je n'ose jamais offrir à mon épouse un habit, quel qu'il soit, parce que j'ai peur qu'il ne soit pas à son goût. Et vous savez, dans la Bible, il y a des vêtements qui sont vraiment bien pour toute taille. C'est vrai pour les enfants, c'est bon pour la jeunesse, c'est bon pour les adultes, c'est bon aussi pour les vieillards. Et ce vêtement qui va bien à tout le monde, c'est celui de l'humilité. Vous voyez, la parole de Dieu met en évidence que Dieu, en effet, a une horreur particulière de l'orgueil. Il dit à un moment donné, c'est écrit dans la parole de Dieu, qu'il y a 6 choses que Dieu a en horreur, même 7. Et la première de ces choses-là, c'est le regard hautain. Pierre semble s'appuyer sur un texte de l'Ancien Testament qui se trouve particulièrement dans le livre des Proverbes et qui dit « Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu a en horreur l'orgueil pour quelle raison? Tout simplement parce que c'est le moyen utilisé par le diable lui-même afin de faire tomber l'homme dans le péché. Le commencement de la chute, c'est ça. Or, quand nous lisons la Bible, on s'aperçoit au sujet de l'ennemi de notre âme, du tentateur. C'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe qu'il a eu un langage particulier quand il s'est adressé à Dieu, et vous connaissez certainement ce passage aussi bien que moi. Il parle à Dieu et il dit « Je vais m'élever, je vais être au-dessus de Dieu, je vais atteindre les étoiles. » Et ainsi il a manifesté cet orgueil, sorte de vantardise incroyable, ce qui lui a valu d'être précipité de la part de Dieu. Quand Dieu parle, eh bien, lui aussi, il dit quelque chose qu'il vaut la peine d'être retenu. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Voyez, Satan désire s'élever au-dessus de Dieu, et il a été précipité. Dieu habite dans les lieux très élevés. Il est le Dieu très haut, le Tout-Puissant. Mais il prend soin de préciser cela. Qui est-ce qui habite avec lui? Eh bien, ce sont les humbles, ceux qui ont le cœur brisé, l'esprit humilié. Il dit, c'est avec cela que je suis, c'est avec cela ou vers cela que mon regard se porte. Pierre, donc, appuyé sur ces révélations données par la parole de Dieu, dit « Revêtez-vous d'humilité ». À quoi pensait Pierre quand justement il parle de revêtement? Eh bien, vous vous souvenez, il avait connu une expérience particulière dans l'évangile de Jean au chapitre 13, cela nous est raconté. Jésus se trouve avec ses disciples et à un moment donné, il se lève, il enlève ses vêtements, il se ceint d'un linge et puis il va aux pieds des disciples pour leur laver les pieds. C'est là qu'il y a eu une réaction de Pierre et qui a dit « Ah mais non Seigneur, non, je ne peux pas accepter cela, Et vous savez aussi bien que moi ce que Jésus lui a dit. Si tu n'acceptes pas cela, il n'y aura pas de part avec moi dans le royaume de Dieu. Alors, Pierre a extrapolé. Et à ce moment-là, il a dit, ah, mais alors, à ce moment-là, non seulement les pieds, mais encore la tête, etc. Et Jésus lui a dit non. Celui qui a été lavé entièrement, une fois pour toutes, n'a désormais plus besoin que de se laver les pieds. Mes frères et sœurs, il y a ici un enseignement très particulier. Il n'est certainement pas question de mettre en cause le salut de notre âme, même si le diable nous accuse pour des fautes ou des erreurs ou des gestes ou des paroles qui sont condamnables. Et c'est vrai que l'ennemi, dans sa subtilité, essaiera toujours de nous rappeler toutes nos erreurs. Mais vous savez aussi ce que la Bible affirme. Le sang de Jésus nous a lavés de tout péché et de toute iniquité. Et c'est une fois pour toutes que nous avons passé à la croix pour obtenir le pardon de nos péchés. Mais, bien sûr, nous le savons, pendant notre cheminement terrestre, il nous arrive d'être contaminés par le sol et d'être salis par des choses avec lesquelles nous entrons en contact. C'est la raison pour laquelle notre marche peut nous amener sur des chemins où nous sommes souillés. Et c'est aussi pour cette raison que la Bible dit que nous avons besoin de nous laver les pieds et de le faire aussi mutuellement. Il est plus facile, n'est-ce pas, pardonnez cette expression, vous m'avez certainement entendu dans le passé le dire, faire des shampoings. Parce que pour faire un shampoing et laver la tête de quelqu'un, eh bien, on se place au-dessus de lui. Mais pour laver les pieds, il faut se mettre à genoux à ses pieds. Et c'est là que nous sommes appelés à le faire par le Maître lui-même. Il a dit, après avoir fait ce geste, vous avez vu ce que je vous ai fait? Eh bien, allez et vous faites de même. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un geste rituel et de le faire d'une manière réelle avec de l'eau et avec également une serviette que nous prenons et que nous plaçons à la ceinture pour imiter le Seigneur. La véritable imitation, c'est d'abord de reconnaître que tous nous avons des défaillances, que tous nous pouvons un jour ou l'autre, eh bien, connaître certaines transgressions, et que finalement, n'est-ce pas vrai, frères et sœurs, que c'est la patience de Dieu qui permet encore que nous puissions dire que nous sommes sauvés? La Bible dit, la patience de Dieu, c'est notre salut. Et quand je regarde à mon Dieu, je suis émerveillé parce que malgré ce que je suis, dans ma nature profonde, Dieu m'aime et Dieu m'a pardonné tant de fois. Et il dit, si moi je t'ai pardonné tant de fois, ne peux-tu pas pardonner à ton tour? Et vous savez, comment Jésus nous a appris cette formidable prière, non pas pour la répéter d'une manière rituelle, mais quant au fond, ce qu'elle représente. Jésus dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, après avoir dit, que ton règne vienne. Et il ajoute, ça c'est important, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais juste après, regardez comme il est bon, le Seigneur. Il nous permet de demander pour nous, avant même que nous disions, chose importante, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'arrête là au sujet de cette prière. Mais par ailleurs, vous connaissez l'enseignement qui se trouve dans la Bible. Dit, si vous ne pardonnez pas, eh bien, Dieu non plus vous ne pardonnera pas. Il y a donc quelque chose ici qui nous pousse à réfléchir. Et c'est impossible de pouvoir atteindre ce but-là sans être revêtu de l'humilité dont il est question ici dans ce passage. L'humilité consiste à se considérer non pas comme étant trop grand pour ne pas être abaissé, ni non plus trop important pour ne pas servir autrui. Et nous sommes appelés les uns et les autres à nous servir mutuellement. Vous savez, mes frères et sœurs, il n'y a rien qui puisse faire autant de bien dans la communion fraternelle que cette sorte de franchise qui vient de la part de l'amour de Dieu, qui nous permet justement d'aider quelqu'un, non pas en pensant « Oh, il m'a fait ceci, il m'a fait cela », et puis oublier de lui dire ouvertement en face, après avoir pris le temps de prier, après avoir pris le temps de se tenir devant le Seigneur. C'est vrai que je ne peux pas aller vers quelqu'un avec mon cœur hautain, mais je peux aller vers quelqu'un lorsque Dieu m'a humilié, m'a brisé et m'a permis de comprendre et de voir clairement qui je suis afin de pouvoir l'aider à mon tour et lui dire « Je veux simplement que Christ soit glorifié dans ta vie. » C'est pas seulement justement penser à ce qui est mal et dont nous avons pu être offensés, parce que avant nous, il y a quelqu'un d'autre qui est terriblement offensé. C'est le Seigneur lui-même. Donc, ce à quoi nous devons passer, c'est à la réconciliation les uns les autres par rapport à Dieu. Et quand on a trouvé Dieu, alors on se retrouve. Vous vous souvenez de l'image souvent utilisée dans le passé? Dans une roue, où sont les rayons le plus proches les uns des autres? Au centre, autour, à la circonférence, eh bien, ils sont éloignés les uns des autres. Plus nous cherchons le Seigneur à titre personnel, individuel, et plus nous allons nous retrouver près les uns des autres. Mais si nous ne faisons pas cela, alors nous allons nous éloigner. Et le malin profitera de tous les moyens, de n'importe quel moyen, pour mettre dans notre cœur l'amertume et nous empêcher de connaître cette vie abondante qui est possible lorsque nous acceptons d'être revêtus de cette humilité que seul le Seigneur est capable de nous donner. Il est, lui, ce dont nous avons besoin les uns et les autres. Je comprends pourquoi Paul pouvait dire « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Et s'il n'y a pas cela dans notre vie, cette prise de conscience-là, alors, bien, nous allons toujours être dans des difficultés, dans de sérieuses difficultés. Je voudrais simplement vous dire que le Seigneur permet parfois que nous traversions des moments très particuliers, parce que il veut nous amener au travers de ces moments particuliers, difficiles, que nous appelons des temps d'épreuve ou que nous appelons des temps de désert, à être approfondis en lui et d'être enrichis de ces trésors spirituels que lui seul est capable de communiquer par le moyen de son esprit. Et Dieu, eh bien, voudrait nous amener à réaliser certaines choses, nous permettant de voir que autant désigné par lui, voulu par lui, eh bien, il peut y avoir des victoires formidables. Avez-vous remarqué ce que dit Pierre ici? Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Dans la Bible, la main, notamment dans l'Ancien Testament, la main puissante de Dieu est le symbole de tous les actes créateurs, de sa puissance et de sa souveraineté. Vous savez, notre Dieu est souverain. Et dans le psaume 115 et au verset 3, il est dit « Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut ». C'est-à-dire que tout est sous le contrôle de Dieu. Notre frère tout à l'heure disait que tout est sous le contrôle de Dieu. Eh bien, c'est vrai, nous devons prendre conscience de cela. Non pas pour en arriver à cet esprit fataliste en disant « Mais alors, si Dieu est souverain et qu'il fait ce qu'il veut, nous ne pourrons pas changer les circonstances, nous ne pourrons pas, parce que finalement il fait ce qu'il veut ». Écoutez bien mes frères et sœurs, la Bible ne nous emmène pas sur le terrain du fatalisme. Elle nous amène à comprendre que Dieu est souverain et qu'il est tout puissant. Mais elle nous amène aussi à prendre en considération la responsabilité qui est la nôtre d'être dépendant de lui et de le chercher avec humilité pour que dans toutes les circonstances, nous puissions recevoir la solution qui est la sienne. Car lorsque lui nous apporte la solution, alors c'est définitif. D'ailleurs, il est dit ici, vous vous humiliez sous sa main puissante afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps convenable, c'est quoi? Eh bien, vous voyez, il y a eu pour Dieu un temps pour tout. Nous, nous sommes bien souvent impatients et nous voudrions qu'il réponde à notre temps, à nous. Mais vous savez, Dieu, il n'a pas, disons, les mêmes pensées que nous. Vous connaissez ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Nos pensées ne sont pas les siennes et les pensées de Dieu sont infiniment au-dessus des nôtres. Nos voix ne sont pas les siennes, et ses voix sont bien plus élevées, je dirais meilleures, que celles que nous, nous pourrions choisir. C'est la raison pour laquelle il faut se trouver sur ses voies et connaître ses pensées. Autant voulu, eh bien, Dieu a délivré Israël de l'esclavage de l'Égypte. Autant voulu, à son heure, il est venu au secours d'un Job qui pourtant se révoltait à un moment donné et qui disait, ben à quoi ça me sert? Tu vas me tuer, de toute façon tu fais ce que tu veux, alors tu vas m'amener là où tu veux, et moi je n'y peux rien. Mais au temps voulu, Dieu a su parler à son cœur, et à ce moment-là, il a révisé sa position, et il a dit, ah, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est-à-dire qu'il a saisi la voix de Dieu, il a saisi le plan de Dieu, il a saisi ce qu'était la volonté du Seigneur. Et à ce moment-là, il a retrouvé tout ce dont il avait besoin. Au temps de Dieu, ça a été long. Pour les hommes, ça paraît parfois long. Mais Dieu, il vit dans l'éternité. Et le temps pour lui ne compte pas. Et nous, nous devons être patients. Dieu ne se trompe jamais quand il permet quelque chose dans notre vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même les choses les plus désastreuses sont dans la main de Dieu. Et si nous voulons être attentifs en le cherchant au lieu de nous révolter, en nous humiliant au lieu de nous soulever contre lui, en son temps, il nous fera voir pourquoi nous sommes passés par certains chemins. Et la troisième chose, finalement, c'est que notre Dieu, il est aussi capable de nous permettre d'atteindre un certain but, à côté duquel peut-être pendant un temps nous sommes passés. Mais Dieu, lui, est persévérant. Et dans sa patience infinie, il va nous conduire jusqu'à ce que le but soit atteint. Dieu est fidèle et l'œuvre qu'il a commencée, il la rendra parfaite. Permettez-moi de vous donner l'illustration de notre homme particulièrement, je dirais, rebelle. Il s'appelle Jonas, un homme de Dieu quand même extraordinaire, à qui Dieu a confié une parole efficace. La preuve, c'est que lorsqu'enfin il a obéi, eh bien, il a vu quelque chose d'extraordinaire, la ville de Ninive se repentir à son message. Et il y a eu un bouleversement incroyable. Mais dans un premier temps, vous savez comment il a cherché à fuir. Mais il y a un passage dans la Bible qui nous rapporte la prière de cet homme quand il était dans le ventre du grand poisson. Et il a dit, « Toutes les eaux sont passées sur moi, je suis entouré de flots. » Et il voyait là vraiment une grande détresse. Vous imaginez un homme qui était en train d'être attaqué par les sucs digestifs de ce grand poisson et qui a crié à Dieu. Y avait-il une situation plus désastreuse que celle-là? Il y avait de quoi être inquiet, n'est-ce pas? Alors il a crié à Dieu, il a supplié Dieu. Alors là, pour une fois, je vais vous dire, cette prière, elle était sincère. Et Dieu a entendu. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Dieu se tient auprès des cœurs affligés, brisés, humiliés. Quand enfin nous comprenons la leçon et que nous voyons qui nous sommes, tellement petits, tellement misérables, et que nous voyons sa grandeur, nous crions à lui. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Puis finalement, eh bien, Dieu a permis que le but soit atteint. Jonas ne voulait pas à un moment donné. Et finalement, Dieu l'a amené là où il fallait. Mes frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Il ne se trompe pas. Et là, c'est bien clairement écrit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pas seulement dans le domaine matériel, pas seulement dans le domaine physique. Mais qu'est-ce qui fait que, finalement, nous faisons de Dieu notre serviteur qui doit toujours répondre à nos caprices, que ce soit dans le domaine physique, que ce soit dans le domaine, je dirais, comme cela, moral, simplement, toujours pour nos petits besoins personnels. Mais pourquoi donc il en est toujours ainsi? Notre Dieu est le divin potier. Nous ne sommes que les vases d'argile. Et comme cela est écrit dans la Bible, ce n'est pas à l'argile de dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Nous avons toujours tendance à dire, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi est-ce que tu permets cela? Pourquoi tu as fait une telle chose? Pourquoi? Bien, si nous persévérons à le rechercher, il va nous montrer pourquoi. Et je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, même si nous terminons notre carrière ici-bas sur la terre sans avoir une réponse à nos pourquoi, Dieu un jour nous révélera la véritable raison pour laquelle nous passons par certains chemins. Toute chose concourt au bien de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et là, je parle en m'adressant à tous ceux qui, effectivement, sont nés de nouveau et appartiennent à ce que la Bible appelle l'Église de Jésus-Christ. Vous le savez, pour moi, l'importance n'est pas dans une dénomination, mais l'importance est dans ce titre formidable que nous avons les uns et les autres, enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la lumière. Et cette lumière-là, elle doit briller dans notre cœur. Alors, en terminant cette courte exhortation, pour vous inviter encore à quelques minutes de prière, j'aimerais vous rappeler ce merveilleux passage qui se trouve dans le psaume 55 au verset 23. Remets-toi ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Qui sont les justes? Ah, je sais ce que vous allez me répondre. Vous allez dire, frère, tout le monde ne l'est pas juste. Vous savez, Permettez que je termine quand même avec cette dernière chose. Un homme me surprend, mais j'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus dimanche. C'est David. Quand dans un psaume, il dit « Seigneur, regarde ma justice. » Et moi, chaque fois que je lis cela, je dis, pardon de l'expression triviale que je vais utiliser, il est gonflé, David, de parler comme ça. « Regarde ma justice. » Quoi, David? Tu oses parler comme ça à Dieu? Toi, menteur? Toi, adultère? Toi, meurtrier? Comment est-ce que tu oses parler comme ça à Dieu? Oui, mais nous ne devons pas oublier. Il y a eu une étape dans sa vie. Et dans un psaume, il parle en ces termes. Et il dit, « Tant que j'ai caché mon péché, je n'ai pas prospéré. Mes os se consumaient à l'intérieur de moi-même. » Mais il avouait sa transgression. Il a été pardonné. Et maintenant, il ne se présente pas devant Dieu comme il est réellement, mais revêtu de la justice de Christ. Parce que les hommes de l'Ancien Testament étaient revêtus de la justice de Christ exactement comme nous, sauf que eux regardaient devant à ce qui allait être accompli en leur faveur. Nous, nous regardons derrière à ce qui déjà a été accompli. Et si nous osons nous présenter devant Dieu ce soir, c'est pourquoi? Eh bien, parce que nous savons que nous avons été pardonnés. Alors, mes frères et sœurs, n'oublions pas cela. Vous et moi, nous avons reçu la grâce de Dieu. Vous et moi, nos iniquités ont été effacées. Vous et moi, nos péchés ont été enlevés. Vous et moi, nous faisons partie de la famille de Dieu. Alors, allons-nous laisser le malin nous troubler par tout ce qui a pu se passer, se produire et nous inquiéter? Prenons la victoire, et avec humilité peut-être, eh bien, exhortons-nous les uns les autres à être fidèles au Seigneur et à retrouver une vraie communion avec lui. Quand chacun trouvera la communion avec lui, alors dans l'Église, il y aura la vraie communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse.